L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louad, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition, nous aborderons dans la première partie avec Karine Béché-Golovko, professeure de droit invitée à l'Université d'État de Moscou, la situation en Ukraine sur fond des déclarations de David Arakhamia, chef du groupe parlementaire du parti ukrainien au pouvoir. Ce dernier a fait savoir officiellement pour la première fois que c'était l'ancien premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson qui a fait capoter les négociations de paix avec la Russie au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Dans la seconde partie de notre émission, nous recevrons M. Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Avec lui, nous analyserons l'échec des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les consultations russo-ukrainiennes sur la paix avaient débuté fin février 2022, au cinquième jour de l'opération militaire lancée par Moscou pour protéger les populations civiles. Après deux tours de négociations en présentiel en Biélorussie, les parties les ont tenues quotidiennement en visioconférence avant leur interruption définitive. Lors d'une intervention sur la télévision, le chef du groupe parlementaire du parti ukrainien au pouvoir, serviteur du peuple, David Arakhamia, a affirmé que c'était Boris Johnson, alors premier ministre britannique, qui a dissuadé Kiev de signer un accord de paix avec la Russie au début de l'opération spéciale. David Arakhamia a indiqué que les Russes étaient prêts à achever la guerre à condition que nous acceptions un statut neutre comme la Finlande et que nous nous engagions à ne pas intégrer l'OTAN. C'était le point clé. Quand nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev et a dit « On ne va rien signer avec eux et on va tout simplement faire la guerre ». Le parlementaire ukrainien a ajouté que Kiev ne peut pas se mettre actuellement à la table des négociations parce que sa position pour négocier est très faible. Selon lui, tout accord, sauf la victoire complète, doit passer par un référendum. Si quelqu'un signe quelque chose qu'il faudrait ratifier au Parlement, les parlementaires sont trop tyrans.
Karine Béché-Golovko, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Je vous en prie, avec plaisir.
Mes questions vont concerner la déclaration de David Arakhamia, qui est le chef du groupe du parti serviteur du peuple à la Rada ukrainienne. Il déclare alors que, je cite, « les Russes étaient prêts à achever la guerre à condition que nous acceptions un statut neutre, comme la Finlande, et que nous nous engageons à ne pas intégrer l'OTAN ». C'était le point clé. Quand nous sommes revenus d'Istanbul, Boris Johnson est arrivé à Kiev, et il a dit « on ne va pas », donc il cite Boris Johnson, « on ne va rien signer avec eux, et on va, c'est-à-dire les Russes, et on va tout simplement faire la guerre ». Donc, fin de citation pour les deux. Alors, on le savait depuis le début, mais le fait d'être dite comme ça par un responsable politique et qui, de surplus, il est membre de la Rada ukrainienne, comment voyez-vous la chose et qu'est-ce qui a provoqué, à votre avis, ce revirement? Est-ce qu'on cherche à lâcher l'Ukraine? Est-ce que les anglo-saxons, les Américains et les Britanniques cherchent à lâcher l'Ukraine?
Alors, effectivement, ce genre de déclaration soulève beaucoup de questions et apporte quand même aussi un certain nombre de réponses.
Oui.
On va commencer par les réponses parce qu'elles sont moins nombreuses. Donc, on voit déjà quelles sont les parties au conflit et quels sont les territoires du conflit. L'Ukraine n'est pas une partie au conflit puisqu'elle n'a, et elle le reconnaît, aucun pouvoir décisionnel. Elle a de même donc perdu son étaticité, et elle le reconnaît aussi. Elle est donc gouvernée de l'extérieur, puisque les décisions importantes qui entraînent l'avenir du pays ne sont pas prises en Ukraine, mais elles sont prises pour l'Ukraine ailleurs. Donc l'Ukraine, en fait, est devenue un terrain, un territoire et surtout un front. Quelles sont les parties au conflit ? On voit d'un côté les pays de l'OTAN. Et ici, Boris Johnson, pour la Grande-Bretagne, a été envoyé. Disons plus, il ne faut pas rêver, ce n'est pas sa décision propre. Face à cela, nous avons un État, lui, qui reste souverain, c'est la Russie, puisque la Russie peut prendre des décisions de commencer, de continuer ou d'arrêter. Et c'est l'énorme différence par rapport, un, aux pays européens, et deux, par rapport à l'Ukraine. Donc ça, il me semble déjà, c'est extrêmement important. Donc on voit bien qu'il ne s'agit absolument pas du tout d'une guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais bien de l'OTAN contre la Russie qui se déroule en Ukraine. Et ça, c'est une première réponse et, je dirais, une confirmation de ce que tout le monde savait, mais au moins cette fois-ci, ça a été dit.
Oui.
La deuxième chose, cela montre bien aussi la, je dirais, la différence d'approche au début du conflit entre les deux parties. D'une part la Russie, d'autre part les pays de l'OTAN. La Russie a répondu en février 2022, puisque, rappelons-le quand même, les accords de Minsk ont été systématiquement violés, le conflit s'est embrasé à l'hiver 2021. Début 2022, il y a eu notamment le territoire national russe frontalier qui a été touché plusieurs fois par l'armée ukrainienne. L'on a assisté à des bombardements intensifs et d'aucune précision de Donetsk et en général du Donbass par cette armée atlantico-ukrainienne. Donc la Russie a réagi suite également aux déclarations des autorités présentes en Ukraine quant à la question de la bombe atomique d'une part, d'autre part de l'entrée dans l'OTAN.
Mmh.
Mais à ce moment-là, il est clair que la Russie n'avait absolument pas l'intention d'entrer dans une guerre longue, ni d'entrer dans une guerre traditionnelle. Donc nous avons vu effectivement une opération forte, de grande ampleur, mais de forte intensité, mais qui n'était pas prévu pour durer un an, deux ans ou voire plus. On ne voit pas très bien quand ça va terminer maintenant. Donc, le but premier était effectivement de faire peur, de faire comprendre ce qu'il était possible que la Russie pouvait faire pour conduire l'Ukraine à négocier. Et là, il me semble que ça a été la première erreur stratégique de la Russie, puisqu'elle a considéré l'Ukraine comme un partenaire entier avec lequel il était possible de...
C'est-à-dire, vous voulez dire au début ?
Au début, lorsque nous avons vu toutes ces négociations en Turquie, etc. Et cela a d'ailleurs été clairement annoncé par le porte-parole ukrainien, qui disait bien qu'il était question de mettre en place des conditions favorables pour la négociation et qu'ils étaient prêts à faire des compromis si effectivement certains points étaient acceptés.
Mmh.
Nous avons vu que les compromis ont été faits du côté russe, mais qu'ils furent unilatérales. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, un, comme cela a été confirmé, l'Ukraine n'est pas un sujet, et que deux, le véritable sujet, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, eux, font la guerre pour gagner la guerre. Et gagner la guerre, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, gagner la guerre, ça veut dire faire perdre la Russie. Ça, c'est à mon avis déjà le premier enjeu que l'on peut déduire de cette déclaration. Pour continuer sur votre deuxième partie de votre question concernant derrière le fait de lâcher l'Ukraine, de ne pas lâcher l'Ukraine, je dirais que cet aspect est presque secondaire. Un, l'Ukraine ne peut pas perdre, mais l'Ukraine peut parfaitement ne pas gagner. Je m'explique. L'Ukraine ne peut pas perdre parce que si l'Ukraine perd, ça veut dire que tous ces programmes de l'OTAN qui sont en place, toute l'implication extrêmement directe des pays occidentaux en fourniture d'armes, en fourniture d'artillerie, en formation des militaires, mais également en financement, de toutes ces structures, toutes ces institutions, serait un échec. Donc, en ce sens, l'Ukraine ne peut pas gagner, ne peut pas perdre. En revanche, l'Ukraine n'est pas obligée de gagner. Si elle ne peut pas, si on ne peut pas tout faire pour qu'elle gagne, en tout cas, on peut maintenir une certaine intensité de conflit, une sorte de conflit gelé. Et il est clair que les pays occidentaux ayant quand même un budget qui est assez limité et une industrie militaire qui a été, en tout cas pour les pays européens, largement détruite ces 30 dernières années, donc il commence à y avoir effectivement des difficultés et un essoufflement objectif à mener cette guerre par proxy sur le terrain ukrainien contre la Russie. Il y a donc plusieurs possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Lâcher l'Ukraine complètement est à mon sens absolument exclu, puisque dans ce cas-là, on en arrive à la première solution, cela annoncerait une défaite de l'Ukraine. Or, l'Occident globaliste ne peut pas se permettre une défaite. Il y a donc possibilité de maintenir une certaine activité guerrière qui reviendrait pas trop cher aux pays occidentaux. Cela implique un plus grand investissement des forces humaines ukrainiennes, et l'on voit effectivement en ce sens des déclarations demandant un âge de conscription qui soit élargi, le fait que les femmes commencent à être mises et recensées pour être envoyées pour l'instant, en tout cas dans les services médicaux sur le front. Donc il y a effectivement le Donc, besoin
si d'impliquer
encore plus.
Si j'ai bien compris, Karine Bechegulov, à votre avis, donc selon vous, c'est pas tout à fait un lâchage parce que l'OTAN signerait sa fin, tout simplement. Ça veut dire qu'il a perdu la guerre face à la Russie, et vous pensez qu'ils vont faire évoluer cette guerre en conflit d'usure qui va durer dans le temps, visant justement en quelque sorte à faire reproduire le même scénario de l'Afghanistan ou ailleurs.
Tout à fait, ça c'est tout à fait possible que l'on arrive à une guerre de long terme, mais je dirais aussi que cela va s'accompagner d'un changement de stratégie et d'une démultiplication des fronts. À la fois, on peut voir arriver des fronts militaires plus ou moins actifs, et pour cela, les pays de l'Est et certains pays de l'espace post-soviétique sont largement travaillés par les organes occidentaux et globalistes pour justement faire monter la tension aux frontières de la Russie, comme nous le voyons. L'on voit également une dégradation de la situation au niveau de la Finlande et de l'Estonie en ce qui concerne les frontières. Il peut y avoir par exemple aussi une volonté d'enfermer la Russie, revenir en fait à un mélange de guerre chaude et de guerre froide, avec une sorte de frontière fermée. La Russie va être extrêmement difficile à enfermer parce qu'il y a quand même tout le Caucase, plus derrière toutes les frontières orientales qui ne pourront pas être maîtrisées. Mais en tout cas, il y a une volonté claire de poser une sorte de mur avec la zone de l'Union européenne. Il y a aussi cette possibilité de la tentation de fausses négociations et d'une fausse diplomatie, puisque, soyons très clairs, toute négociation actuellement consiste en fait à faire accepter la capitulation par l'autre, pas sur le champ de bataille, mais sur le plan politique. Ce qui revient finalement au même résultat, d'accord, parce qu'une capitulation reste une capitulation.
Alors, mais regardons un peu la question du point de vue intérieur à l'Ukraine. Quand M. Arakhamia affirme que les dirigeants politiques et militaires actuels sont partisans de la poursuite du conflit, et il explique, je le cite, parce que nous ne pouvons pas nous mettre actuellement à la table des négociations. Notre position pour négocier est très faible. Tout accord, sauf la victoire complète, doit passer par un référendum. Et puis, il ajoute, si quelqu'un va signer quelque chose, il faut le ratifier au Parlement. Les parlementaires sont trop durs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'effondrement de l'intérieur de l'Ukraine, de telle façon à ce qu'il y ait, je ne sais pas, peut-être un Euromaïdan inverse, dans le sens inverse, où des gens qui vont comprendre que la direction qui a dirigé le pays jusqu'à maintenant n'est plus apte à diriger le pays. Et qu'il va falloir trouver un terrain d'entente avec la Russie, qu'on le veuille ou non.
Les révolutions, ça se prépare, ça se finance, ça s'entraîne, et on doit mettre en place des structures et des personnes pour le faire. Donc il y aura une nouvelle révolution en Ukraine quand ce travail aura été fait par les forces qui l'auront effectué. Croire à la possibilité de réussite d'un mouvement populaire spontané, sans organisation, sans infrastructure, sans financement, à mon avis, est absolument irréaliste. En ce qui concerne l'effondrement de la société ukrainienne, la société ukrainienne s'est effondrée dans le sang en 2014. Il n'y a rien de nouveau à cela, elle n'existe plus. Elle va complètement s'écrouler le jour où les forces extérieures vont se retirer de ce pays. Pour l'instant, nous sommes face à une marionnette qui bouge, qui parle, parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, qui lève les bras, qui fait avancer les jambes, et une autre personne qui parle à sa place. Donc elle n'existe plus, l'Ukraine n'existe plus. En fait, l'Ukraine a déjà perdu en tant que pays. Elle a eu la possibilité, à un moment donné, d'exister à la chute de l'Union soviétique, et comme à chaque fois où elle a eu un petit moment d'indépendance dans son histoire, elle est toujours retombée sous domination d'une force extérieure et elle a toujours été instrumentalisée contre la Russie. C'est en quelque sorte, j'ai presque sa destinée. Soit elle reste dans le cadre russe, comme ça a été le cas pendant un millénaire, puisque historiquement c'est une terre russe. À chaque fois où cette terre a été extirpée de la Russie, dans ce cas-là, elle a été instrumentalisée pour être lancée. C'est pas un pays qui a des institutions historiques, autonomes, donc une culture politique propre qui lui permet d'exister de manière indépendante. Donc c'est un pays fictif qui est créé et qui est instrumentalisé contre la Russie. Donc oui, la société va s'écrouler, ça c'est évident, et dans quel sens elle va s'écrouler, ça dépendra des résultats de ce conflit. Elle s'écroulera dans les bras du vainqueur. Soit l'Occident va gagner, et dans ce cas-là, elle s'écroulera, et n'oublions pas une chose, c'est que les États-Unis et les pays européens ne reconstruisent jamais les pays qu'ils détruisent, il suffit de regarder l'Irak ou la Libye, par exemple. Donc, si l'Occident gagne, dans ce cas-là, ce territoire va être une chiffre qui va être répartie entre les vainqueurs, les grandes sociétés, qui vont pouvoir utiliser les sols, extraire les matières premières, etc. Si l'Occident perd et la Russie gagne, dans ce cas-là, il serait bon quand même que les élites russes aient un programme politique qui soit un petit peu plus clair en ce qui concerne l'Ukraine, parce que, comme nous le voyons parfaitement, s'ils veulent réellement aller contre les risques d'une remontée de l'OTAN dans ce territoire, s'ils veulent réellement aller contre les risques d'un retour du néonazisme dans ce territoire doit être contrôlé et doit revenir, comme historiquement il en faisait partie, au sein de la Fédération de Russie. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc dans tous les cas, si vous voulez, cela montre l'impossibilité de vie de ce projet Ukraine indépendamment.
D'accord. Mais c'est ce qui est apparu dernièrement au sein de la direction de l'Ukraine, c'est les différends entre le président Zelensky, son chef de l'état-major. Est-ce que c'est pas un prélude pour un lâchage de Zelensky dont on voudrait peut-être faire un bouc émissaire, notamment par les États-Unis et le Royaume-Uni?
Tout à fait. Il ne faut pas oublier que si ce sont des marionnettes qui sont mises en place, ce sont aussi des êtres humains. Donc, ils peuvent être fatigués aussi. Ils peuvent avoir des moments de rébellion ponctuelle. Ils peuvent dire des choses qu'il ne faut pas. Mais ça ne change rien à la ligne générale du fait que, et comme ils l'ont reconnu eux-mêmes, de toute façon, ils ne décident pas de leur avenir, ni de l'avenir de l'Ukraine. Il est tout à fait possible et envisageable que les tuteurs de l'Ukraine envisagent un changement d'acteur, puisque Zelensky a rempli son rôle. Il a mené l'Ukraine à la guerre totale. Il a achevé l'étaticité du pays. C'est exactement ce qui était attendu de lui. Maintenant, il est évidemment impopulaire, c'est logique, parce qu'avec ce parcours, il est difficile d'être populaire. Ouais. D'autant plus qu'effectivement et objectivement, il ne peut pas remporter de victoire directe. Sa victoire qui pourrait être, ou qui pourrait être remportée, c'est si jamais, par hasard, tous les pays de l'OTAN arrivaient massivement se jeter contre la Russie, mais ça, de toute façon, ils ne sont pas prêts à le faire non plus. Dans ce cas-là, effectivement, il y aurait un risque pour la Russie. Mais face à une guerre par proxy, la Russie arrive, à moindre frais pour l'instant en tout cas, à bloquer la situation. Donc, Zelensky est politiquement en échec, alors que globalement, il remplit la mission pour laquelle il a été mis en place. Donc, il va falloir effectivement, à un moment donné, changer de visage. Bon, pour l'instant, les élections ont été reportées similier, présidentielles en Ukraine. Mais cela ne veut pas dire que si le besoin se fait, il ne puisse pas être écarté par une voie ou légale ou illégale, peu importe. Cela pourrait même une fausse, il n'y est pas aussi, vous parlez de la possibilité d'une véritable révolution. Mais personne n'exclut non plus les fausses révolutions qui permettent de redonner un faux espoir et de relancer en quelque sorte la machine pour quelques années. Ça non plus, ça n'est pas à exclure.
D'accord. Il y a quand même une question que j'aimerais vous soumettre. Et il y a pas mal de géopolitologues qui disent que le fait que justement qu'il y a un basculement à l'échelle internationale du côté des pays qui prônent la multipolarité et le multilatéralisme et contre l'Occident globaliste est déjà un signe de la victoire de la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il faut revenir au dicton populaire, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, le fait que certains pays se prononcent contre la globalisation, c'est en soi une bonne chose. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de globalisation contestée. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons arrivés à un système multipolaire pour la simple et bonne raison que ces pays ne constituent pas un pôle politique alternatif. Et ça, c'est dommage. L'on en voit aussi avec des organes comme par exemple le BRICS, beaucoup de questions se posent. L'élargissement à l'Argentine, avec un président qui désormais veut intégrer le dollar comme monnaie nationale et mettre en place le régime globaliste et néolibéral, pose la question de la capacité de choix de ses partenaires au sein des BRICS. L'on arrive également, et c'est un fait, à la nécessité de regrouper ces pays qui sont contre la globalisation autour d'un projet qui soit alternatif. Or, pour l'instant, il y a des ébauches, il y a des idées, mais il n'y a pas de projet alternatif en tant que tel. Donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Pour l'instant, la Russie a ouvert la porte et donné la possibilité aux pays de se libérer, mais ces pays, pour l'instant, ne se sont pas libérés eux-mêmes, et c'est à eux à le faire. Et cela passe non seulement par quelques grandes déclarations lors de sommets sympathiques, mais passe par la remise en cause d'un certain nombre de décisions politiques qui, de facto, de jure, les mettent dans le cadre du système globaliste. Tant que cela n'aura pas été fait, à mon avis, on ne peut pas parler de victoire. La victoire aura lieu lorsque le système global sera à terre. Pour l'instant, il ne l'est pas. Pour l'instant, il se bat. Et il se bat très très fort. Donc, cela pose aussi la deuxième question qui peut être posée à ses forces. Un, pour s'organiser en force politique, il faudrait peut-être aussi, et pourquoi pas, rentrer dans une coopération militaire avec la Russie dans ce combat. Puisque lorsque l'on voit le bloc globaliste en face, qui passe par le bloc de l'OTAN, ce sont des pays qui s'investissent militairement pour défendre la globalisation et l'imposer, notamment dans le cadre du conflit ukrainien, qui est un conflit central ici. Est-ce que ces pays, s'ils veulent réellement une victoire de la Russie, ne pourraient-ils pas, d'une manière ou d'une autre, participer et aider et soutenir militairement également ce conflit? Et là, dans ce cas-là, on pourrait parler de la constitution, petit à petit, de réels blocs politiques, puisque dans ce cas-là, des choix réels auraient été faits. Mais nous en sommes encore loin, nous sommes quand même.
D'accord. Il y a des experts militaires qui disent que, en fait, l'OTAN actuellement, ou les pays occidentaux en général, qui sont membres de l'OTAN, l'OTAN n'a pas les capacités de faire la guerre à la Russie. Je dirais, c'est ça qui est la raison qu'ils n'arrivent pas justement à pousser loin le conflit en Ukraine contre la Russie. Alors, quand vous jumelez cette faiblesse militaire et économique et financière Est-ce que le changement de rapport de force n'est pas effectivement engagé et que la dynamique, bien que je suis d'accord avec vous que les choses ne sont pas encore arrivées pour dire d'une manière carrée que c'est bon, mais la dynamique est enclenchée.
Oui, effectivement, le conflit est en cours. Ce que l'on reconnaît tous, il y a un conflit. Il y a un état de faiblesse des États en tant que tels, puisque dans le cadre de la globalisation, les États doivent être affaiblis, sinon les pouvoirs, les organes de gouvernance de la globalisation, qui sont hors de l'État, ne pourraient pas fonctionner. Donc, objectivement, et les pays qui font partie du bloc globaliste sont objectivement affaiblis, c'est normal. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les pays qui aujourd'hui se prononcent contre la globalisation en ont fait partie pendant 30-50 ans et se sont eux-mêmes aussi affaiblis. On voit que la Russie, au début du conflit, a dû relancer en catastrophe tout à coup sa production d'armement, son industrie militaire. On voit que, indépendamment de ça, avec les sanctions, il a fallu qu'elle relance la production intérieure, puisque elle aussi était rentrée dans un système globaliste sur le plan économique. Donc, il y a un rapport de faiblesse, mais qui ne veut pas dire que le bloc occidental étant faible, il va tomber tout seul. Il ne tombera pas tout seul. Il faut arrêter aussi toujours d'espérer l'arrivée d'un Deus ex machina qui va permettre tout à coup de sauver la situation comme on le veut. Miraculeusement, l'Occident tout à coup devrait arrêter de soutenir l'Ukraine et oups, ça devrait être magnifique, l'Ukraine va tomber, la guerre sera gagnée. Ou alors, tout à coup, miraculeusement, les pays occidentaux n'arriveront plus à fournir et à survivre à ce conflit qui leur coûte cher économiquement et socialement, et hop, ils vont s'écrouler tout seuls, et spontanément, des révolutions populaires, on ne sait pas d'où, vont spontanément sortir, et tout sera merveilleux, la globalisation va tomber. Sans qu'il faut arrêter les raisonnements magiques. Il y a effectivement, oui, des problèmes de production, il y a effectivement, oui, des problèmes économiques qui provoquent des problèmes sociaux. Les gouvernements en Occident se moquent éperdument de la situation sociale de leurs habitants, puisque leur objectif est ailleurs, soutenir les priorités de la globalisation. Le combat en Ukraine est une de ces priorités, puisque d'une manière générale, il s'agit du combat contre la Russie. Si ces gouvernants réellement s'intéressaient à l'intérêt de leur pays, ils n'auraient pas adopté des sanctions énergétiques contre la Russie, qui sont en train de plomber complètement ce qui reste de l'économie en Europe. Ils n'auraient pas fait. Wow. Ils le font. Donc, ils peuvent aller très loin, peu importe. Et c'est un régime qui va être de plus en plus répressif au fur et à mesure qu'il sera impopulaire et qu'il provoquera une crise sociale et économique. Mais il ne faut pas rêver, ça ne va pas tomber tout seul. Ces pays, tout à coup, ne vont pas arrêter parce que les populations ne sont pas d'accord. Si les populations commencent à crier trop fort, on va prendre des lois de plus en plus répressives et on va écraser la population. On voit d'ailleurs les tendances qui vont en ce sens actuellement.
Et vous pensez que, justement, c'est juste un début par rapport à ça? C'est un peu le retour aux années 30 où on met des lois liberticides de telle façon à ce que le pouvoir s'impose parce qu'il a un dessein au-dessus de l'intérêt général du bien commun?
Je dirais que ce n'est pas tout à fait comme dans les années 30, parce que la Seconde Guerre mondiale était une guerre classique entre les États. Là, actuellement, c'est une guerre globale, ce n'est pas une guerre mondiale. Une guerre globale, c'est-à-dire une guerre qui se mène non pas entre les États, mais contre les États. Mmh. Et ce qui est combattu contre la Russie, c'est le fait qu'elle veuille être un État. Comme ce qui dérange les autres pays qui relèvent la tête contre la globalisation, c'est qu'ils veulent défendre leur étaticité. Et c'est ça que ce monde global veut combattre. Donc je ne pense pas que cela revienne par les mêmes mécanismes en ce sens que dans les années 30, mais globalement, on va retrouver des mécanismes, à mon avis, qui sont même plus anciens historiquement, avec l'utilisation des forces répressives au niveau des États, puisque ces forces existent. Ce sont bien les États qui ont le monopole de la police et de l'armée, parce que bon, les quelques entreprises privées militaires, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Elles ne peuvent pas être au service de la globalisation en tant que telle, hein, d'une manière générale, elles ne sont pas suffisantes. Donc, pour gouverner, ces organes de gouvernance globale ont besoin de la structure étatique. Mais par contre, on voit parallèlement à cela se vider toutes les compétences souveraines et étatistes et elles sont complètement dissoutes, les décisions se prennent ailleurs. Il y a donc une rupture entre les populations et les élites gouvernantes. Et si ces élites gouvernantes ne dépendent plus des populations, elles ne vont pas défendre ces populations. Et si ces populations dérangent, elles risquent de les écraser. Mais pas comme dans les années 30, dans le sens où ça ne va pas viser une ethnie en tant que telle, ça peut viser le peuple en tant que tel. C'est beaucoup plus large. C'est totalitaire, global.
Toute mesure gardée. Mais je voulais dire, c'était la façon avec laquelle on imposait les régimes liberticides et totalitaires. Bien sûr, la situation a évolué. On n'est pas dans la même situation. Mais quand on regarde, c'est-à-dire d'un point de vue global, les conditions qui ont prévalu, une crise économique, une déchéance sociale, et on a malheureusement cette élite globaliste qui, à votre avis, n'hésitera pas à écraser la population. Alors, une dernière question, Karine Bichegolovko. Quand vous voyez un peu l'évolution de la situation en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, comment voyez-vous la chose donc par rapport à cette lutte entre ceux qui se battent pour le multilatéralisme et la globalisation?
L'on voit un peu partout, ça fait quand même depuis un certain nombre d'années, une démultiplication des conflits.
Oui.
Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, ce monde global ne peut être que totalitaire, c'est son essence même. Il ne peut pas supporter quelque chose, qu'un territoire lui échappe, qu'une partie de la population ne le révère pas. Donc, il y a ce besoin d'écraser ce qui dérange. On le voit effectivement avec la carte blanche qui a été octroyée à Israël pour raser de la carte Gaza. On le voit avec l'attitude de la communauté internationale qui choisit toujours a priori le clan du bien qui est celui qui se bat selon ses idéaux et le clan du mal qui est celui qui présente un danger pour ses idéaux. Ainsi, lorsque l'on voit l'armée israélienne tirer sur les hôpitaux à Gaza, tirer sur les camps de réfugiés, cela ne pose aucun problème. Un petit peu quand même de temps en temps, mais pas trop. C'est, entre guillemets, c'est son droit de réponse, soit. Et à côté de ça, lorsque l'Ukraine a militarisé les hôpitaux, ce qui avait été dénoncé par Amnesty International, et que l'armée russe avait à cette époque-là tiré, souvenez-vous sur les hôpitaux, qui devient une cible légitime, puisque c'est un site militarisé. Dans ce cas-là, nous parlons tout de suite de crimes de guerre. Donc, il y a effectivement un combat total pour que ce monde devienne global. C'est s'il y a réellement des pays qui ont suffisamment d'instinct de survie politique, notamment, pour refuser ce passage, c'est le moment de lever la tête et d'entrer réellement dans le combat. Parce que après, il sera trop tard. C'est la Russie a ouvert la porte maintenant à chacun de prendre le chemin et d'aller effectivement vers la différence, vers le retour à l'intérêt national. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir légitimement gouverner sur un territoire et gouverner une population.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Karim Bechet-Golovko. J'espère vous retrouver prochainement dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Karim Bechet-Golovko, professeur de droit, invité à l'Université d'État de Moscou. Elle a réagi aux déclarations du chef du groupe du parti Serviteur du peuple à la Rada ukrainienne, David Arakamia, sur le rôle britannique dans le sabotage des négociations de paix avec la Russie. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À présent, nous recevons Abdoulaye Nabaloum du Burkina Faso, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aborder avec lui le départ des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC et l'échec en général de ses missions dans le continent. Pour rappel, les autorités de la République démocratique du Congo ont signé le 21 novembre un plan de retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo qui devrait débuter dès le mois de décembre. Le président Félix Tshisekedi avait souhaité le départ de la MONUSCO en septembre dernier, lors d'une intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il avait dénoncé l'inefficacité de la mission face aux rébellions et conflits armés entre des groupes qui se disputent le territoire et les ressources depuis des années. Abdoulaye Nabaloum, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo retire ses soldats du pays. Les autorités congolaises ont dénoncé l'inefficacité de la mission face aux rébellions et conflits armés entre des groupes qui se disputent le territoire et les ressources depuis des années. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler à nos auditeurs comment cette mission a débuté et si elle avait connu des succès à quelques stades que ce soit?
Donc, que doit-on retenir de cette mission des Nations Unies qui a été implémentée par la résolution numéro 1279 du 30 novembre 1999. Alors, qu'est-ce qui a fait que, effectivement, l'ONU a pris cette résolution? C'est notamment face aux différentes crises qui liaient la RDC avec ses voisins, notamment l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Namibie. Donc, il fallait à travers ces États-là, organiser le désengagement des forces, maintenir la liaison avec toutes les parties prenantes, puisque ça fait l'objet d'un accord. Donc l'objectif étant de cesser le feu à tous les niveaux. Donc à travers cette résolution, l'ONU a mis en place ce qu'on a appelé dans un premier temps la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC-C. C'est alors que cette organisation va se déployer et au fil du temps va connaître en tout cas beaucoup de mutations ou beaucoup d'interventions, notamment durant l'année 1999. La mission s'est articulé à travers 5 points, notamment établir les contacts avec les signataires de l'accord, établir une liaison avec la commission militaire mixte, fournir des informations sur les conditions de sécurité, élaborer des plans en vue d'observer le cessez-le-feu. Donc cette mission s'est organisée à travers les années et a fait des interventions. Et c'est en 2010 que la mission va changer de nom pour devenir MONUSCO. Donc, c'était à travers la résolution 1925 que le Conseil de sécurité a changé de nom pour donner la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Donc, la nouvelle mission est autorisé pour utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, à savoir garantir la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme exposés à une menace de violence physique et aider le gouvernement à stabiliser et à consolider la paix. Donc, on a eu la création de la brigade d'intervention. Il y a aussi cette résolution 2277 du 30 mars 2016 qui proroge le mandat de la MONUSCO jusqu'en 2017 avec toujours pour objectif la stabilisation et insiste pour la tenue, l'organisation des élections qui devraient se dérouler au cours de l'année 2017. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers le temps, lorsqu'on prend 1999 à 2023 aujourd'hui, vous voyez le long temps que, effectivement, cette force onusienne est installée en République démocratique du Congo. Alors, a-t-elle rempli sa mission ou pas? Quel est son apport à travers le temps que l'on peut véritablement apprécier au regard de la paix, puisque c'est de la paix qu'il s'agit. Il ne suffit pas simplement d'avoir des forces militaires qui quadrillent ou en tout cas qui sillonnent l'ensemble du territoire ou qui en tout cas s'organisent pour garantir les institutions seulement. Il faudra aussi que cette organisation puisse apporter à la population la quiétude et la paix. Donc voilà ce que nous, en tant que panafricains, nous croyons en ces institutions. Donc aujourd'hui, tout le peuple congolais est en légitime questionnement sur la pertinence, sur l'apport réel qu'apporte cette organisation dans leur espace.
Les peuples africains n'étaient pas satisfaits des activités des soldats de la paix au Sud-Soudan, déjà, et au Mali, en République centrafricaine. Il leur a déjà été demandé par les autorités de ces pays de quitter le territoire. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, les casques bleus d'assurer la sécurité des pays africains où ils sont intervenus?
Comme je le disais tantôt, c'est que souffrent de ces populations, c'est la quiétude et la paix. Alors, quelle que soit l'intervention, quelle que soit la présence d'une force quelconque, si elle ne peut pas assurer la quiétude et la paix, il faille quand même faire une introspection et entrevoir d'autres possibilités. Et c'est ce que ces pays-là ont fait. Nous avons été édifiés longuement avec le cas du Mali, où lorsque les autorités maliennes ont présenté à l'ONU leur volonté de non-renouvellement du mandat de la MINUSMA, ça a créé autant de tollé. Mais nous avons salué cette clairvoyance des autorités maliennes qui avaient effectivement une longueur d'avance parce que la présence de la mission était un obstacle à la reconquête du territoire malien. Et pire encore, la présence de ces forces onusiennes favorisait le déploiement, favorisait l'expansion des groupes armés à travers le pays, leur donnait quitus pour s'implémenter. Alors, ce qui empêche, de mon avis, les casques bleus d'assurer la sécurité des pays, c'est la définition même de leur mission. Je pense qu'il y a un problème de formulation dans la définition de leur mission et des objectifs qui leur sont assignés. Quand on prend la RDC où on dit que la mission, c'est véritablement pour stabiliser. Stabiliser quoi? Qu'est-ce qu'il faut stabiliser? Justement, quel est le contenu qu'on donne à la stabilité? Est-ce qu'on chasse les groupes armés? Ou bien la MINUSCO a pour objectif d'aller dire aux groupes armés de ne tirer plus, restez dans votre coin et ne tirez plus. Ça a été le cas au Mali, où vous avez des casques bleus qui viennent diviser le pays en deux. De l'autre côté, on a les soldats maliens. De l'autre côté, nous avons les groupes armés. Et on a au milieu la force de l'ONU. Alors, quel est l'objectif de cette présence? Quand on sait qu'un pays souverain, c'est un pays qui contrôle son territoire, lorsque vous venez constituer une barrière pour diviser ce pays, alors vous ne venez pas régler ce problème. Vous venez permettre à un des groupes, en tout cas, de s'organiser mieux, de mieux s'équiper ou de mieux s'organiser pour pouvoir faire perdurer les combats ou faire perdurer les questions d'insécurité. Et du reste, quand on regarde la RDC, c'est pendant que ces groupes, ces casques bleus sont là, qu'effectivement, par moment, on a des incursions de batailles chaudes et après, ça se calme. Alors, donc, véritablement, on a du mal à comprendre la présence réelle de ces forces armées et le problème central que connaissent ces pays. Le problème central, toujours, la question de la sécurité et de la paix. Donc, je pense qu'il y a un problème dans la définition des objectifs et de cette mission qu'il faudra revisiter pour qu'il soit adapté non seulement au contexte, mais aussi à l'environnement du pays où cette force-là doit intervenir.
Les casques bleus sont accusés non seulement d'inefficacité, mais aussi de viol, de vol, de contrebande et de trafic de drogue. Alors, Monsieur Nabaloum, s'agit-il d'un problème systémique des forces de maintien de la paix de l'ONU et pourquoi ne font-ils souvent qu'exacerber les problèmes?
Le revers de la présence des casques bleus en Afrique, comme je le disais, qui était entre autres favoriser le pillage des ressources naturelles de ces pays, il y a aussi les cas de viol, de vol, de contrebande et de trafic de drogue. C'est une réalité qui est inhérente à leur présence, surtout que leur présence s'enlise. On a l'impression que quand il s'agit de l'Afrique, effectivement, c'est le passoir où le système des Nations Unies, instrumentalisé par les Occidentaux, s'implémente pour leur permettre d'une manière ou d'une autre, en tout cas orchestrer tout ce qui est mal synthété pour faire non seulement perdurer les crises, ne pas apporter de solutions, mais créer d'autres crises liées à cette première crise qui est la sécurité. Donc, le comble dans tout ça, c'est parfois l'absence de justice face aux populations qui sont victimes, parce que à la base, ce sont les populations qui payent le lot tribut de toutes ces inconséquences de la présence des forces onusiennes. Je pense que à la 78e Assemblée dernièrement, le cri de cœur énoncé par l'ensemble des Africains intervenants indexant directement le Conseil de sécurité de l'ONU est un message fort qui devrait se faire entendre parce qu'aujourd'hui, les Africains ont clairement compris que si vous voulez résoudre une crise, il faut tout faire pour ne pas inviter le Conseil de sécurité dans la gestion de votre crise. Et le pire, c'est les cas flagrants où, effectivement, on utilise le Conseil de sécurité pour organiser des hold-up démocratiques, dont les plus récents sont l'évincement du président Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. C'est aussi l'organisation de la chute de Kadhafi qui a mis la Libye dans le chaos, dans le désarroi que nous vivons, qui a occasionné et ou qui a favorisé le déploiement ou en tout cas l'expansion au Sahel de ces groupes armés. Donc l'histoire montre clairement que le Conseil de sécurité, au lieu d'être un mécanisme qui apporte la sécurité, un mécanisme qui devrait favoriser la paix, se retrouve être aujourd'hui comme étant l'instigateur principal de beaucoup de foyers de tension, de beaucoup de crises dans ce monde.
Des milliards de dollars ont déjà été dépensés pour financer les missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique. Tout le monde le sait. Alors la question, ne pensez-vous pas que si cet argent était alloué au développement des pays, il aurait contribué considérablement à résoudre les problèmes de sécurité et d'une manière beaucoup plus efficace?
Vous avez parfaitement raison, parce que les milliards de dollars qui sont dépensés dans ces différentes missions-là, si on les avait déjà alloués aux pays concernés pour qu'ils résolvent leurs problèmes, je pense que on n'aurait pas dépassé une année pour résoudre les problèmes qui divisent les dirigeants par moment avec des groupes armés de part et d'autre. Donc, comme je le disais, dans cette définition des missions, ce qu'on retient, c'est que la présence des casques bleus favorise aussi le pillage des ressources. Ça, c'est le constat amer qui ressort à travers les différentes missions onusiennes installées en Afrique. Le constat qu'on fait après, pendant même leur présence, on a vu en RDC où, en tout cas à travers les réseaux sociaux, on a montré des blindés ou des véhicules appartenant au système des Nations Unies qui transportaient des minerais, qui transportaient des matières premières, qui transportaient des ressources naturelles. Donc, au Mali, nous voyons très récemment avec les images, effectivement, tous ces grands tunnels qui ont été creusés à Kidal, dont on ne sait l'objet et le pourquoi et qui les a faits. Ce qui est sûr, c'est la MINUSMA qui ici était installée. Donc, l'on est en droit de se dire clairement que la présence de ces forces onusiennes favorise l'exploitation, favorise le pillage des ressources des pays dans lesquels, effectivement, ces forces-là sont installées. Au Soudan et en Centrafrique, nous sommes conscients des ressources de pétrole existantes qui, effectivement, font l'objet de pillages sous la complicité, effectivement, n'eût été cette présence-là, ces forces armées nationales n'allaient jamais permettre, en tout cas, ce pillage allègrement organisé.
On parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité d'envoyer des soldats onusiens de la paix en Palestine, donc suite à ce qui se passe actuellement à Gaza. Mais force de constater qu'au Moyen-Orient, comme nous le voyons en Syrie, les casques bleus sont tout aussi inefficaces. Est-il utile de maintenir cette institution à votre avis?
À mon avis, à moins de vouloir dépenser de l'argent pour trouver de l'emploi à ces soldats. Sinon, je ne vois pas la pertinence de cette présence onusienne au Moyen-Orient. Du reste, depuis que nous sommes nés, on parle de la crise Israël-Palestine. Ça connaît des moments d'accalmie et aussi des moments de vive tension. Et en général, en tout cas de ma petite expérience que j'observe de la situation du Moyen-Orient, cette situation qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus une prédation sur les terres palestiniennes, sous la complicité du monde occidental piloté par les États-Unis, alors une force onusienne n'a rien à faire au Moyen-Orient. Il faut laisser ces peuples-là s'organiser et se défendre. C'est une question de légitime défense parce que l'on constate toute la force et l'énergie déployée par Israël pour chasser les Palestiniens et récupérer leurs terres. Du reste, quand on prend le système des Nations Unies, je ne pense pas qu'il y ait une autre crise mondiale qui ait connu autant de résolutions que la crise israélo-palestinienne. Donc si à travers le temps, on n'a pas trouvé l'opportunité de déployer une force onusienne, si aujourd'hui ça suscite des questionnements, c'est dire qu'il y a d'autres objectifs que la recherche de la paix. Parce que les multiples résolutions qui ont été prises au niveau du système des Nations Unies, si elles n'ont pas permis d'organiser la paix dans ces territoires-là, ce n'est pas une mission onusienne qui peut apporter la paix au Moyen-Orient. Donc, personnellement, je pense que c'est une utopie et ça peut être créer d'autres incidents dont on ne pourrait pas contrôler les conséquences.
Alors, pour finir, Monsieur Nabaloum, comment, selon vous, les pays africains devraient-ils assurer la paix et la sécurité sur leur territoire avec leurs propres armées et forces de sécurité et avec leurs propres moyens?
Alors, de mon point de vue, les crises sont intimement liées au système de gouvernance de nos pays. Et le système de gouvernance que nous avons hérité de l'Occident pour la plupart n'est véritablement pas en adéquation avec les aspirations profondes, n'est pas en phase avec la vie quotidienne, le vécu des Africains. Donc, pour moi, pour d'abord qu'il y ait sécurité, il faut que les pays africains puissent exercer leur pleine souveraineté. La souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté énergétique, la souveraineté sécuritaire environnementale. Donc, il faut véritablement que les Africains puissent lutter et s'arracher et vivre, exercer leur pleine souveraineté. C'est le seul gage, de mon avis, qui puisse favoriser la quiétude et la paix. Parce que à travers le monde, il n'y a qu'en Afrique que les manipulations peuvent toujours s'organiser et peuvent toujours réussir. Fort heureusement que les générations actuelles ont pris conscience et de plus en plus luttent pour qu'effectivement les choses changent à travers le monde. Parce que quand vous regardez dans les autres continents, pourquoi est-ce que on n'a pas les mêmes crises qu'en Afrique? Pourquoi est-ce que c'est en Afrique que les autres pays peuvent venir, les pays occidentaux viennent allègrement pour créer, pour imposer leur vision, leur mode de faire, et qui du coup met en difficulté les dirigeants africains qui sont obligés de s'aligner ou de s'accommoder avec la volonté des Occidentaux. Et s'accommoder avec cette volonté-là, c'est renier complètement la volonté de son peuple. Donc voilà le nœud qu'il faille résoudre de mon point de vue et qui puisse favoriser la sécurité. Sinon, si par exemple je prends le cas du Sahel avec les groupes armés et à travers ce que nous avons suivi, nous avons très, très clairement compris que la présence des forces françaises y a beaucoup contribué à l'expansion de ces groupes armés. Parce qu'il y a très longtemps que nos pays connaissent des vols, connaissent de la contrebande, mais pas avoir une puissance de feu jusqu'à ce niveau à pouvoir mettre en déroute des armées entières de pays. C'est une chose qui est incompréhensible. C'est parce que, effectivement, ces groupes armés-là bénéficient de l'appui, de l'accompagnement et du soutien d'autres nations ou d'autres groupes de personnes beaucoup plus importants. Donc, la souveraineté, l'exercice de la souveraineté est indispensable pour les pays africains. Et nous comprenons que c'est une lutte acharnée. C'est pourquoi nous, panafricains, et à travers les différentes sociétés civiles, nous travaillons davantage à sensibiliser les populations, les masses à la base, pour une prise de conscience que nous devons changer notre modèle de gouvernance, nous devons changer nos politiques pour les adapter à nos réalités, afin que l'on puisse s'affirmer à travers le monde et pouvoir échanger d'égal avec les autres nations du monde. C'est l'objectif en tout cas que s'est fixé la CANPAO à travers cette organisation qui de plus en plus s'étend dans toute l'Afrique pour que les Africains soient mieux informés, soient mieux sensibilisés, soient mieux organisés pour faire face au monde multipolaire qui est en train de se dessiner avec un lead de tête, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et puis l'Afrique du Sud. C'est un espoir pour la jeunesse africaine, un espoir sur lequel nous y comptons beaucoup et nous espérons que, effectivement, cette jeunesse pourra s'affirmer et défendre haut les flambeaux et les valeurs de l'Afrique.
C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.